Avant toute chose, petit encart publicitaire. Chez Gervais, les penseurs du marketing nous donnent deux arguments. Avec leurs produits, c'est parti pour bien grandir. Et les petits Gervais aux fruits sont les petits pots des eaux solides. Cet argumentaire se base sur l'affirmation suivante. Pour bien grandir, il faut donc avoir des eaux solides. Si nous souhaitons bien grandir dans notre vie spirituelle, que nous faudrait-il? Comment la développer sur une ossature solide? Ce matin, nous étudierons la fin du premier chapitre de la première épître de Pierre. Vous pouvez donc ouvrir vos Bibles à 1 Pierre 1 et nous lirons du verset 17 jusqu'au verset 3 du chapitre suivant. Pendant que vous feuilletez le Nouveau Testament à la recherche de notre texte, je me permets quelques mots sur l'auteur. Pierre, l'apôtre Pierre, est un disciple de Jésus, que nous voyons apparaître très tôt dans le ministère de Christ. C'est un personnage prééminent chez les disciples et souvent considéré comme le leader, le chef, le porte-parole des disciples de Jésus. Ce dernier, l'ayant désigné comme le socle, la base de la future Église, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, il était un des responsables de l'Église de Jérusalem. Il a par la suite réalisé un voyage missionnaire dans les Églises d'Asie mineure. C'est par ces deux rôles, durant la période de l'Église primitive, et grâce à son atout de témoin visuel du ministère de Christ, qu'il écrit cette lettre aux Églises dispersées. Il a un style vif, voire accusateur, il est directif. Il se veut enseignant et encourageant. Lisons maintenant 1 Pierre 1 à partir du verset 17. Dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. Par conséquent, pendant tout le temps qui vous reste à passer dans ce monde, manifestez par votre manière de vivre que vous le révérez. Vous avez été libéré de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres, et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens qui se dévaluent comme l'argent et l'or. Non, il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela, et il a paru dans ces temps qui sont les derniers pour agir en votre faveur. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire. Ainsi, votre foi et votre espérance sont tournées vers Dieu. Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle. La parole vivante et éternelle de Dieu. En effet, il est écrit « Tout homme est comme l'herbe des prés, toute gloire humaine comme la fleur des champs, l'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Or, cette parole, c'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Rejetez donc toutes les formes de méchanceté et de ruse, l'hypocrisie, la jalousie et toute médisance. Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. Puisque, comme le dit l'Écriture, vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Après cette page de pub et la lecture d'une partie de la lettre d'encouragement, je propose de découper cette prédication en deux parties. Est-ce que la projection peut afficher les deux parties? Merci. Premièrement, Christ, notre acquis inaltérable. Et deuxièmement, changeons. Cette intervention s'articulera autour de la pensée suivante. Ouf, ça y est, je suis sauvé. Changer? Est-ce vraiment nécessaire désormais? Première partie donc, notre acquis inaltérable. Dans le calendrier juif d'aujourd'hui, rares sont les mois où il n'y a pas une ou deux fêtes à célébrer. L'une d'entre elles mérite qu'on s'y intéresse. Yom Kippour. Yom Kippour, c'est pour les Juifs le jour du grand pardon. C'est une fête dont nous n'avons pas d'équivalent dans notre calendrier chrétien. En fait, la célébration qui s'en rapproche le plus de ce grand pardon, de ce pardon, c'est notre jour de Pâques, où Christ s'est sacrifié pour nos péchés, comme on l'a chanté tout à l'heure. Cependant, à l'inverse du peuple juif, nous n'avons pas besoin de rituel pour réitérer ce pardon. Nous sommes pardonnés au fur et à mesure que nous reconnaissons notre péché et demandons pardon auprès du Dieu Saint. Et pour cause, les versets 18 et 23 nous disent que nous avons été libérés et que nous avons été appelés à une vie nouvelle. Quel prisonnier aurait été libéré temporairement? Quelle vie n'aurait été qu'à durée déterminée? Car oui, nous avons été libérés de notre ancienne vie, nous avons été rachetés de nos péchés. Nous sommes nés de nouveau grâce à Christ qui, je cite au verset 19, tel un agneau pur et sans défaut, a versé son sang précieux en sacrifice pour vous, pour nous. Ce rachat, cette transaction divine, a été réalisée il y a bien longtemps déjà. Et pourtant, nous croyons qu'il est toujours valable. Nous le croyons car notre paiement a été réalisé par bien plus que de l'or et de l'argent, mais par le Fils du Dieu fait homme pour nous. Revenons un instant sur les gerbes aux fruits, que nos chers publicitaires savent si bien nous vendre. Quand vous achetez un pack de ce dessert, qu'est-ce que vous voyez dessus? Un logo, oui. Une liste d'ingrédients, peut-être. Mais aussi une date de péremption. Nous veillerons donc à ce que ce pack de yaourt soit dans nos estomacs avant la date fatidique. Dans le cas contraire, pour ne pas nous rendre malades avec, il finira probablement à la poubelle avec le reste des biens inutiles de notre quotidien. Et alors, ça fait bientôt 2000 ans que Christ est mort pour nous. Ne pensez-vous pas que le contrat qui en découle aurait eu le temps de se périmer? Non. Retenez bien ceci. Nous avons entre les mains le contrat le plus aberrant, le plus invraisemblable de l'histoire de l'humanité. Dieu fait homme en Jésus, paie par avance pour nous le prix de la liberté. Il a conclu, il a soldé notre rachat du péché avant même que nous ne soyons nés. Ce contrat n'a ni date de péremption, ni clause de fin, ni même de coût de réabonnement périodique. Une seule chose nous est demandée pour nous octroyer personnellement ce contrat et ses bénéfices. Croire que ce contrat existe. Croire qu'il est vrai. Et croire que Christ l'a réalisé pour moi. Entre nous, est-ce si cher payé pour une nouvelle vie? Si nous croyons en Christ, nous avons, on l'a vu, un acquis inaltérable. Nous sommes nés d'une semence immortelle. Cette semence, c'est Christ qui vit désormais en nous à travers l'Esprit Saint. Nous le recevons à notre conversion, comme Christ nous l'a promis. Cette semence, souche de notre nouvelle vie, est inaltérable et immortelle, tout comme Dieu l'est par définition. Puisque Christ est ressuscité, que sa parole est vivante et éternelle, nous n'avons aucun souci à nous faire de notre ancienne vie, de notre ancienne manière futile de vivre. Elle a été depuis longtemps mise au placard, n'est-ce pas? Bien sûr, nous avons pris la précaution de bien tout mettre à la poubelle le jour de notre conversion. Non? Non. Même avec de la bonne volonté, entre la théorie et la pratique, il reste notre humanité. L'apôtre Paul nous dit en Romains 6, que dire maintenant? Persisterons-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Loin de là! Puisque nous sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Ne savez-vous pas que nous tous, qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui, par le baptême, en relation avec sa mort, afin que, comme Christ a été ressuscité d'entre les morts, par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Car si nous avons été unis à lui à une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Lors de notre conversion, lors de cet acte de foi, notre ancienne vie a été ensevelie avec Christ. Puis tout comme Christ est ressuscité dans toute sa gloire, nous aussi nous avons souscrit à cette vie nouvelle. Nouvelle ? Pas tant que ça, encore une fois. Car visiblement, comme des insensés, nous sommes repassés après l'enterrement de notre ancienne vie pour demander à récupérer quelques petits trucs. Je pense que je vais me garder un petit peu d'orgueil. Hein. Un petit peu, ça fait pas de mal. Le texte nous dit de manière très végétale, au verset 24, que pour l'homme, ou la gloire humaine, il vient un temps où il meurt. Par contre, le texte nous dit aussi que c'est d'une semence immortelle que nous sommes nés de nouveau. Nous avons cru en la bonne nouvelle de Christ, et cette parole de Dieu demeure éternellement. Un choix s'offre donc à l'homme qui croit en la parole de Dieu. Le premier choix possible, c'est d'être attaché à son humanité, sa propre gloire humaine, et d'acquérir du périssable, du bonheur éphémère à vivre avec ses péchés, sa méchanceté, son orgueil, sa jalousie. Le second choix est d'être attaché à la parole de Dieu, celle qui demeure éternellement, celle qui ne se flétrira pas, celle qui enseigne qu'une vie hors du péché est possible. Est-ce que je veux vraiment gâcher le cadeau de Dieu et faire que cette nouvelle vie ressemble à s'y méprendre à l'ancienne ? Faisons une pause. Prenons un temps de silence pour prendre conscience de notre péché. Réfléchissons un instant. Est-ce que nous avons gardé notre ancienne vie ? Nous sommes devant un choix à faire. Peut-être avons-nous déjà fait celui de faire de Christ notre Sauveur. Je vous parle de faire de Christ votre Seigneur. Il souhaite que nous reconnaissions qu'il est mort afin que nous soyons libérés de faire le mal pour lui rendre gloire en faisant le bien. Est-ce que j'ai envie de faire de Christ mon Seigneur ? Est-ce que je vais simplement baisser les bras parce que c'est trop dur d'accepter de ne pas regarder en arrière et de laisser Christ à la place qui lui revient réellement ? Dieu, par cette lettre de Pierre, nous appelle tous à changer. Que nous soyons les premiers chrétiens en Judée ou les derniers au bout du monde. J'en viens donc à ma deuxième partie, excusez-moi. Changeons. Nous sommes tous hypocrites. Non, rassurez-vous, pas de gros hypocrites. Mais notre nature est faible et pécheresse, nous limite malgré notre bonne volonté. Nous chantons, nous aimons chanter la gloire de Dieu. Que Dieu est juste, que Jésus a fait tant de choses pour nous. On l'a chanté ce matin. Nous prions même que le Seigneur intervienne dans notre vie. Dans celle de nos proches qui résolvent des situations compliquées. Nous le prions, car nous savons que le Seigneur est juste et bon. Et pourtant, dans notre quotidien, nos actes, nos relations avec nos proches, nos parents, nos voisins, nos collègues, reflètent difficilement ce que nous croyons, que Dieu est juste et bon. Si nous souhaitons changer cela, si nous souhaitons nous améliorer, si nous souhaitons arrêter de penser blanc et finalement de faire gris, il y a des solutions. Il y a des solutions. L'apôtre Pierre, l'auteur, nous dit au verset 17 de manifester par notre ancienne vie, par notre manière de vivre, excusez-moi, que nous révérons Dieu. Nous verrons comment révérer Dieu par nos actes dans quelques instants. Avant ça, j'aimerais que nous regardions en détail les deux premiers versets du chapitre 2. Tout comme le manifesté que vous trouvez au verset 17, l'auteur utilise l'impératif pour donner deux ordres. Le premier, c'est rejeter toute forme de péché, et le second, désirer le lait pur de la parole. Ces deux ordres sont liés. Je dirais même qu'ils s'enchaînent. La raison à ça, c'est aussi simple que de faire la vaisselle. Vous aurez reconnu que je tiens une éponge. Principe de fonctionnement, on a le temps, on va l'expliquer, pas de souci, est assez rudimentaire. Vous prenez une éponge sèche, comme celle-ci, vous la jetez dans une bassine de jus de raisin, elle va absorber le jus jusqu'à ce qu'elle soit complètement imbibée. Maintenant qu'elle a vraiment viré au violet, vous la prenez délicatement et vous la posez dans une bassine d'eau claire. À ce stade, il ne se passera rien. L'éponge restera aussi violette qu'auparavant. Vous me répondrez que si nous aurions voulu la remplir d'eau, il aurait fallu la presser avant de la mettre dans l'eau. Vous auriez eu raison. Pierre nous explique au début du chapitre 2 que nous sommes des éponges. Il ne nous est pas possible d'être à la fois remplis du péché et des bienfaits de la parole de Dieu. Si nous souhaitons grandir en vue du salut, grâce au lait pur de la parole, je cite le texte, ou dit plus simplement, changer pour le bien, nous devons commencer par chasser le mal qui vit en nous. Tout comme nous pressons l'éponge pour que le jus de raisin sorte, nous devons nous presser nous-mêmes pour en extraire notre péché. À l'aide de la prière, nous pouvons laisser l'Esprit Saint nous transformer. Nous ne sommes pas en mesure de combattre le mal, le péché, par nous-mêmes. Mais Dieu, dans sa grande compassion, nous a donné son Esprit. C'est par son action que nous sommes en mesure de puiser la force nécessaire de dire non à notre péché, de rejeter nos penchants naturels. Ainsi, par l'action de l'Esprit, il y aura effectivement de nouveau de la place pour faire le bien à la place du mal, pour faire ce que Dieu veut et non ce que je veux, pour grandir en vue du salut. Oui, Dieu nous appelle à grandir en vue du salut au verset 2. Il nous demande de désirer le lait pur de la parole. Il s'agit là d'une image attribuée au nouveau-né, qui n'a finalement que du lait comme aliment. Dans notre désir de croissance spirituelle, dans notre prise de décision de rejeter le péché qui vit en nous, il est nécessaire de nous nourrir spirituellement. Il est nécessaire de trouver un modèle, une ligne de conduite à suivre. Nous nous émerveillons de voir nos enfants grandir, apprendre à parler, apprendre ce qui est toléré, ce qui est interdit. Quand l'un d'entre eux nous regarde d'un air malicieux avant de faire une bêtise, nous sourions gentiment, avant de le mettre en garde quand même. Quand il dit « Merci !» d'un ton assez appuyé et presque forcé, loin du naturel, nous savons pertinemment que c'est parce qu'on lui a appris à être poli. Les enfants ont besoin d'un modèle pour grandir, nous le savons. Nous avons besoin d'un modèle pour grandir. Si nous désirons changer, nous devons nous aussi avoir un modèle à suivre. Au verset 18, donc du chapitre 1, l'auteur dit que nos ancêtres ont été un modèle de vie futile. Ce n'est assurément pas ce modèle-ci qu'il faut prendre. Notre modèle doit être la parole de Dieu, car l'objectif est de grandir en vue du salut. Cette parole nous explique que le salut a une double dimension. Bon, plus d'une prédication serait nécessaire pour l'expliquer, mais on va essayer de la résumer. Le salut à la croix permet la réconciliation avec Dieu. Cette réconciliation permet, au-delà de mon propre péché, de notre humanité complètement pourrie de l'intérieur, que nous puissions croire que l'Éternel nous a déjà jugés comme étant pardonné au jour du jugement dernier. C'est bon, j'ai perdu personne ? Très bien. C'est en vue de ce salut, en connaissance du fait que Dieu nous donne dès à présent une vie nouvelle et éternelle auprès de lui, que nous pouvons bâtir sur des bases solides. Et je vous renvoie au programme de bâtir sur du solide, si vous voulez. Nous avons parlé de ce qui n'allait pas, du fait que le Seigneur nous appelle et nous donne la possibilité de changer, mais nous n'avons pas vu concrètement comment changer, comment révérer l'Éternel, comment rendre gloire à Dieu par nos actes. J'ai évoqué en introduction que la lettre de Pierre est une lettre d'encouragement. Pierre n'est pas avare d'encouragement. Il nous donne à travers eux un exemple, des exemples, de ce que nous pouvons faire pour changer selon la volonté de Dieu. Nous venons voir l'encouragement de l'éponge, consistant à commencer par rejeter la méchanceté, la ruse, l'hypocrisie, la jalousie, la médisance, et à considérer la parole de Dieu comme nourriture pour notre vie nouvelle. Pierre nous donne quelques encouragements à glorifier Dieu dans notre vie quotidienne. Chapitre 2, verset 12. « Ayez une bonne conduite au milieu des païens. Ainsi, dans les domaines même où ils vous calomnient, en vous accusant de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. » Verset 15. « En pratiquant le bien, vous réduisiez au silence toutes les calomnies portées contre vous par les insensés et les ignorants. » Verset 18. « Serviteurs, soumettez-vous à votre maître avec tout le respect qui lui est dû, non seulement s'il est bon et bienveillant, mais aussi s'il est dur. » Chapitre 3, donc, verset 1. Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à son mari, pour que si l'un d'entre eux ne croit pas en la parole de Dieu, qu'il soit gagné à la fois, sans parole, par votre conduite, en observant votre attitude respectueuse et pure. Verset 7. Vous de même, mari, vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement. Elles ont une nature plus délicate. Verset 9. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Répondez au contraire par la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de recevoir vous-même la bénédiction. Verset 16. Ainsi, ceux qui disent du mal de votre bonne conduite, qui découle de votre consécration au Christ, auront à rougir de leur calomnie. Et le verset que je considère comme le plus important, qu'on a lu, chapitre 2, verset 22. Chapitre 1, verset 22, pardon. Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Pour conclure, Christ s'est sacrifié par amour pour nous, pour que nous ayons une seconde chance. Si dans votre cœur, vous ne croyez pas à cela, je vous invite à reconsidérer l'offre, le fait de croire en lui afin d'avoir, vous aussi, cette vie nouvelle. Peut-être avez-vous déjà fait ce pas de foi et vous vous dites « Ouf, ça y est, je suis sauvé, changé. Est-ce que c'est désormais nécessaire ?» Au-delà de la nécessité, Dieu ne nous a pas sauvés pour que non, pour en rester à patauger dans une vie aussi moche que la précédente. Peut-être avez-vous dans votre famille une ou plusieurs personnes qui ne croient pas à Christ. Alors aimez-les comme Christ vous aime. Ne laissez ni l'hypocrisie, ni la jalousie, la médisance corrompre vos relations avec eux. Au contraire, soyez humbles et généreux, aimants et vecteurs de bénédiction. Peut-être êtes-vous le seul à croire dans votre famille. Alors, aimez-les tous encore plus, pour qu'ils soient gagnés par la foi et par votre conduite. Peut-être avez-vous des relations compliquées avec vos voisins ou vos collègues. La parole nous dit de pratiquer le bien. Vous réduirez au silence toutes les calomnies portées contre vous à cause de votre foi en Christ. Peut-être avez-vous pas trop de problèmes et beaucoup d'amis qui aimeraient comprendre ce que vous, croyants, vous avez de différent. Ne cherchez pas en premier lieu à exposer un argumentaire théorique, mais cherchez à adopter une bonne conduite au milieu d'eux. Ainsi, ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. En résumé, aimons-nous les uns les autres. Aimons notre prochain. C'est cela, rendre gloire à Dieu par nos actes. Je vous invite à prier pour remettre notre désir de nous engager avec Christ. Prions. Seigneur éternel, dès le commencement, tu avais prévu de nous racheter, de nous sauver, de nous donner la solution pour sortir de cette vie pécheresse. Merci Seigneur pour ton Fils, mort à la croix. Mais Seigneur, on ne veut pas s'arrêter à un simple merci, on veut continuer de progresser, on veut continuer de viser le salut et de terminer, viser la fin de cette course. Seigneur, aide-nous par ton esprit à chasser le mal qui vit en nous, chasser ce mal parfois diffus qui corrompt nos relations, qui corrompt notre manière de voir le monde. Aide-nous à être toujours plus comme toi, comme ton Fils l'a été pour ce monde. Il a été juste et bon. Amen.